Ma situation me fait penser à ce dicton. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et c'est ainsi que j'arrive au chapitre 26, l'avant-dernier de ce livre, pour le moins insolite. C'est vrai que le Lévitique est choquant au regard de la culture occidentale du XXIe siècle. Ce livre de la loi se termine comme le précédent, celui de l'Exode, par un discours d'exhortation et d'avertissement. Les traités d'alliance du Proche-Orient ancien entre un suzerain et un vassal comportaient une liste réduite de bénédictions pour le cas où le vassal se montrerait loyal envers son suzerain et une longue liste de malédictions pour le cas contraire. Il en est de même dans ce chapitre qui contient la liste des sanctions de l'alliance conclue entre Dieu et son peuple, ce qui laisse présager l'avenir sombre, que dis-je, catastrophique d'Israël. Et en effet, les malédictions prévues s'accompliront telles quelles dans l'histoire de ce peuple. Ce chapitre étant prophétique, il suppose le peuple établi dans la terre que l'Éternel lui donnera et décrit toute l'histoire d'Israël depuis son arrivée en Palestine jusqu'à son rétablissement définitif, en Palestine toujours, lorsque le Christ règnera pendant 1000 ans sur cette terre. Après le préambule, dans la première partie, Dieu dicte les conditions sous lesquelles les Hébreux jouiront de toutes les bénédictions qu'il leur a promises. Il les invite à observer fidèlement toutes les ordonnances qu'il vient d'énoncer et décrit le bonheur garanti qui en résultera. La seconde section accumule les malheurs et enfin l'exil et la diaspora dont Israël sera frappé s'il se détourne de son Dieu d'alliance. Enfin, dans la toute dernière partie de ce chapitre, l'Éternel assure le peuple de sa bienveillance et de sa miséricorde. Il est toujours prêt à lui pardonner et à lui ouvrir tout grand ses bras dès qu'il se repentira et se tournera vers lui. C'est ce même Dieu de grâce qui règne aujourd'hui dans les cieux et il est prêt à m'accueillir au moment où je reconnais ma culpabilité devant lui. Les bénédictions étant conditionnelles, la conjonction « si » est mentionnée 9 fois tout au long du chapitre. Par ailleurs, 24 fois, Dieu promet d'agir d'une manière ou d'une autre selon l'attitude d'Israël face aux 9 clauses conditionnelles d'alliance qui ponctuent le texte. Les Israélites vont sceller eux-mêmes leur sort selon qu'ils obéiront ou pas à leur Dieu. Je commence la lecture de ce chapitre. Vous ne vous fabriquerez pas d'idole, vous ne vous dresserez ni statue ni stèle et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Versets 1 à 2. Ce passage résume la relation entre l'Israélite et l'Éternel. Il y a 3 éléments qui sont mentionnés. Pas d'idolâtrie, respect du jour de repos et du tabernacle. Ce sont les conditions sine qua non pour entrer dans l'alliance avec Dieu. L'essence religieuse de la loi de Moïse se résume au rejet des faux dieux et à l'observance du sabbat et du culte à rendre à l'Éternel. Je continue le texte. « Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements, et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses produits et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange et celle-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. » Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles et l'épée ne traversera pas votre territoire. Versets 3 à 6. Maintenant commence le discours proprement dit. La première bénédiction est l'eau en quantité suffisante pour abreuver les arbres et obtenir des récoltes abondantes. La première saison de pluie est en automne, d'octobre à décembre. Elle permet d'ameublir le sol qui doit être ensemencé. La deuxième se situe au printemps, juste avant la moisson, pour faire grossir le grain et les fruits. Dieu promet que la moisson sera si considérable que le battage du blé continuera jusqu'en septembre et la vendange si productive qu'elle durera jusqu'à la fin octobre. De plus, ce sera la grande sérénité. Il y aura non seulement pas de guerre, mais aussi absence de toute mauvaise surprise et même d'une alerte quelconque. Bien sûr, cette grande quiétude est liée aux si conditionnels précédemment mentionnés. Je continue. Vous poursuivrez vos ennemis et ils succomberont sous votre glaive. 5 d'entre vous en poursuivront 100 et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite. Et vos ennemis tomberont sous les coups de votre épée. Je prendrai soin de vous, je vous rendrai féconds et très nombreux, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Versets 7 à 9. C'est une référence à la conquête du pays de Canaan qui va se faire par étapes. S'ils respectent l'alliance avec l'Éternel, personne ne les attaquera, mais quand eux décideront de s'approprier de nouveaux territoires, ils n'auront aucune difficulté et feront le vide autour d'eux. Dieu accomplira aussi les promesses de prospérité et de fécondité qu'il a faites aux ancêtres de la nation d'Israël. Je continue. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte ancienne bien conservée, et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle. Je ferai ma demeure au milieu de vous, et jamais je ne vous rejetterai. Je vivrai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug et je vous ai fait marcher la tête haute. Versets 10 à 13. Si nombreux que seront les habitants, ils n'épuiseront pas les provisions. Il leur faudra donc vendre et exporter ce qui reste des récoltes de l'année précédente pour emmagasiner la nouvelle. L'Éternel promet en plus une bénédiction spirituelle qui couronne les autres. Il habitera en personne au milieu de son peuple et lui rappelle ses anciens exploits qui sont une garantie de ses futurs bienfaits. Alors qu'Israël est en exil à Babylone, un prophète de l'Ancien Testament prédira à nouveau toutes ces bénédictions qui se réaliseront dans un futur lointain, lorsque le Christ règnera sur cette terre pendant 1000 ans. Je cite ce prophète. « Je les comblerai de bénédictions dans les environs de ma colline. Je ferai tomber la pluie en son temps. Ce seront des pluies qui vous apporteront la bénédiction. Les arbres dans les champs donneront leurs fruits et la terre produira ses récoltes. Ils vivront en toute sécurité dans leur propre pays et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai brisé les barres de leurs joues et que je les aurai délivrés de ceux qui les asservissent. » Fin de citation. Je continue le texte. « Mais si vous ne m'écoutez pas et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances, et si vous rejetez mes lois pour ne plus appliquer tous mes commandements et pour violer mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai pour vous plonger dans l'épouvante et vous envoyer le dépérissement et la fièvre qui terniront votre regard et épuiseront votre vie. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous. Vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. » Versets 14 à 17. Le tableau précédent était relativement court parce que l'obéissance conduit directement au bonheur. Le paragraphe suivant est considérablement plus long parce que l'infidélité comprend plusieurs niveaux et ne déploie que graduellement ses conséquences les plus pernicieuses. Voici donc maintenant les trois si de rupture de contrat. Le refus d'écouter, d'obéir et le mépris des ordonnances de la loi. Alors viendra le jugement de premier degré. Ce sera l'épouvante causée par la maladie et des guerres malheureuses, des invasions passagères, des batailles rangées perdues, jusqu'à l'assujettissement temporaire à l'ennemi. Tout cela s'est accompli à maintes reprises dans la triste et sordide histoire d'Israël. Je cite deux passages de prophètes de l'Ancien Testament. « Vous sèmerez sans pouvoir moissonner, vous presserez l'olive, mais sans vous frotter d'huile, vous foulerez les grappes sans en boire le vin. Alors l'Éternel se mit en colère contre les Israélites, et il les abandonna aux violences de pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. Chaque fois qu'ils entreprenaient une campagne, l'Éternel intervenait contre eux pour leur malheur, comme il le leur avait déclaré, et même annoncé par serment. Ainsi, ils furent réduits à la plus grande détresse. » Fin de citation. Je continue le texte. « Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus grande. Je briserai la force dont vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne procureront plus rien et les vergers ne porteront plus de fruits. » Versets 18 à 20. Voici la seconde série de menaces. Les Israélites perdront leur sujet d'orgueil, la fertilité extraordinaire du pays qui faisait leur force et sur laquelle ils comptaient ne sera plus. Je continue. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai 7 fois des coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. Versets 21-22. Si au lieu de s'humilier et de se repentir, Israël continue à s'opposer à l'Éternel de manière franche et déterminée, alors viendra le troisième degré de jugement. Les animaux sauvages auront libre cours de se multiplier dans un pays ravagé par les maladies, la guerre et la famine. Ils décimeront les faibles, les isolés et les troupeaux. Je continue. Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous obstinez à me résister, moi aussi, je m'opposerai à vous et je vous frapperai 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir rompu mon alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes fortifiées, je déchaînerai la peste au milieu de vous et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres de sorte que 10 femmes pourront cuire tout leur pain disponible dans un seul four et lorsqu'elles le distribueront par ration pesée, il n'apaisera pas votre faim. Versets 23-26. Tout au long de cette section du texte, la ponctuation des jugements par le nombre 7 souligne la plénitude, la forte ardeur de la colère divine qui se déchaîne sans frein. Cette quatrième menace est marquée par une combinaison de guerres et de maladies qui extermineront la population. C'est aussi ce qu'un prophète de l'Ancien Testament a annoncé et qui s'est réalisé. Je le cite. Un tiers des habitants de la ville mourra de la peste ou périra de faim dans vos murs. Un autre tiers tombera, frappé par l'épée aux alentours de la ville. Et le dernier tiers, je le disperserai à tout vent et je le poursuivrai avec l'épée. Fin de citation. La nation fut effectivement décimée par les Babyloniens et emmenée en captivité pendant 70 ans. Je continue. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à me résister, je vous résisterai avec fureur et je vous corrigerai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez vos propres enfants. Je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs. J'abattrai vos stèles vouées au Dieu du soleil et j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles. Et je vous rejetterai. Je réduirai vos villes en ruines. Je ravagerai vos sanctuaires et j'en ferai des lieux déserts. Je ne me laisserai pas apaiser par le parfum de vos sacrifices et de vos offrandes. Je dévasterai moi-même le pays de sorte que vos ennemis venus l'occuper en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi les nations païennes et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Versets 27 à 33. Voici le dernier degré du châtiment terrible qu'Israël va endurer. Cette parole « Je vous résisterai avec fureur » est particulièrement violente en hébreu. Elle fait froid dans le dos car elle traduit l'exaspération d'un ennemi enragé par une résistance persistante. Ce ne sont plus ici des désolations momentanées, mais la ruine complète, à commencer par les temples dédiés aux idoles qui jucheront le sol pêle-mêle avec les Israélites égorgés. Tout cela arriva effectivement entre les mains des Assyriens pour le royaume du nord et entre les mains des Babyloniens pour le royaume du sud. Durant les sièges, la seule nourriture disponible fut la chair des jeunes enfants, ce que confirment des documents historiques. Je continue. Alors la terre jouira d'années de repos durant tout le temps qu'elle sera désolée et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Enfin, elle chômera et jouira de son repos. Durant toute cette période où elle demeurera dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustrée, le temps que vous l'aurez habité. Versets 34 à 35. Comme je l'ai déjà dit, les Israélites seront en exil 70 ans pour avoir négligé l'année sabbatique pendant 490 ans. Ils croyaient qu'ils n'auraient pas à rendre de compte. Parce que la rétribution de mauvaises actions n'est pas immédiate, on pense s'en tirer à bon compte. Grossière erreur de jugement. Pendant ce temps de repos, la terre, délivrée de ses habitants violateurs de la loi, elle sera soulagée. Elle se verra ainsi dédommagée des exigences outrées que les Israélites lui ont fait subir par un travail sans relâche. Je continue le texte. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je plongerai leur cœur dans l'angoisse en exil, chez leurs ennemis. Au seul bruit d'une feuille qui tombe, ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi et ils tomberont sans que personne ne les poursuive. Ils trébucheront l'un contre l'autre comme lorsqu'on fuit devant l'épée sans que personne ne les poursuive et ils seront incapables de résister à leurs ennemis. Vous périrez chez des nations étrangères et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs péchés et de ceux de leurs ancêtres. Versets 36 à 39. Voici un tableau livide et frappant de l'antisémitisme dont ont été victimes les Juifs durant toute leur histoire depuis leur rébellion contre l'Éternel. On croirait lire un livre consacré aux pogroms et aux poursuites nazies. D'ailleurs, dans un vieil ouvrage dont l'auteur s'appelle Beauvais, qui est intitulé « Voyage en Terre Sainte » et qui parle des Juifs, on lit ceci. « Son regard est oblique et inquiet. Il masque la terreur dont son cœur est possédé sous un sourire mielleux qui fait mal à voir quand on l'étudie. Il ne parle pas. Il chuchote comme un prisonnier qui craint de réveiller ses bourreaux endormis. Il ne marche pas. Il se glisse le long des murs, l'œil au guet, l'oreille aux écoutes, et il tourne court à tous les angles comme un larron qu'on poursuit. Souvent, il tient sa chaussure à la main pour faire moins de bruit, car rien ne l'effraie plus que d'attirer l'attention. Il voudrait marcher dans un nuage et se rendre invisible. Si on le regarde, il double le pas, s'arrête-t-on, il prend la fuite. Fin de citation. Je continue le texte. Alors ils reconnaîtront leur faute et celle de leurs ancêtres, leur rébellion contre moi et la résistance qu'ils m'auront opposée. C'est à cause de cette résistance que je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et j'interviendrai en faveur du pays. Car le pays sera abandonné par eux et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment, parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. J'agirai en leur faveur, conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir d'Égypte, aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les ordonnances, les articles de droit et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Versets 40 à 46. Toute la culpabilité d'Israël n'annule pas le fait qu'il détient l'acte de propriété de la Palestine, pays que l'Éternel lui a donné. Cette section révèle la miséricorde du Dieu de la Bible, qui est toujours prêt à pardonner le repentant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, nous dit le Nouveau Testament. Il demeure également fidèle à ses promesses. Il accomplira ce qu'il a dit aux patriarches et pères de la nation, Abraham, Isaac et Jacob. Il les ramènera dans leur pays et leur donnera tout ce qu'il leur a promis. C'est sur la base de ces promesses que les prophètes de l'Ancien Testament terminent leur plus terrible menace contre Israël. Ce passage est prophétique en ce qu'il affirme qu'un jour, la nation d'Israël s'humiliera et retournera au Dieu de ses pères. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.